Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Studio Tamani, il est 18h à Bamako, le journal avec Seydou Fama, bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité un régime de sanctions contre ceux qui entraveraient la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les acteurs du processus saluent ce qu'ils appellent une avancée. Certains analystes estiment que l'idée des sanctions contre les acteurs, les auteurs d'attaques ou des terroristes est à saluer. Toutefois, souligne-t-il, le régime de sanctions voté par le Conseil de sécurité sera difficile à appliquer. Le village de Namba, non loin de Djafarabé, a été la cible d'une attaque cette semaine par des présumés djihadistes. Plus d'une trentaine de personnes auraient été enlevées et les assaillants exigeraient l'application de leurs lois en échange de la libération des otages. Problématique de l'emploi au Mali, le mouvement national des jeunes chômeurs réclame au président Ibeka les 200 000 emplois qu'il avait promis pendant la campagne présidentielle. Mais selon le gouvernement, l'objectif des 200 000 emplois a été atteint à 99%. Auditrice, auditeur, bienvenue. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité hier un régime de sanctions contre ceux qui entraveraient la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les acteurs du processus saluent en cette résolution une avancée, mais ce vote intervient alors qu'en juillet dernier, les groupes armés s'étaient violemment affrontés à Kidal. La trêve signée le 23 août a expiré aujourd'hui. Les explications avec Idrissa Sakho.
Le texte adopté prévoit la possibilité d'interdiction de voyage et de gel d'avoir pour les entités ou individus responsables d'empêcher la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Les contrevenants et le document seront nommément visés par des sanctions en cas de violation du cessez-le-feu, d'obstruction à la mise en œuvre de l'accord de paix, d'attaque contre les forces armées maliennes ou les casques bleus, des violations des droits de l'homme ou d'obstruction à l'acheminement d'aide humanitaire. Demandé par le gouvernement malien le mois dernier, ce régime de sanctions se veut dissuasif. Il vise à contrer les nombreuses entraves à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation signé en mai et juin 2015 entre Bamako et les groupes armés. Les acteurs du processus saluent cette avancée dans l'accélération de la mise en œuvre de l'accord. Cette résolution est adoptée à l'ONU alors qu'en juillet dernier, des violents affrontements ont opposé les groupes armés de la CEMA et de la plateforme à Kidal. La trêve de 15 jours signée le 23 août a expiré aujourd'hui. Selon les responsables des mouvements, des discussions sont en cours pour la prorogation du cessez-le-feu.
Certains analystes estiment que l'idée des sanctions contre les auteurs d'attaques ou des terroristes est à saluer. Toutefois, estiment-ils, le régime des sanctions voté par le Conseil de sécurité sera difficile à appliquer. Selon eux, il y a des individus ou des entités qui ne craignent pas ce type de sanctions. Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS, joint par Mariam Kabakeita.
Mais c'est tout l'intérêt d'avoir un régime de sanctions élargi, parce que le régime de sanctions tout court, il existait déjà. Il y avait une résolution qui prévoyait l'élargissement du régime de sanctions visant des groupes Al-Qaïda et État islamique. Et ce régime de sanctions a donc pris en compte tous les groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Ce qui est nouveau avec ce régime de sanctions, c'est qu'il élargit ce régime de sanctions à des entités ou à des individus qui peuvent être signataires effectivement de l'accord de paix. Après avoir annoncé ce régime de sanctions-là, de dissuasif également dans la mesure où on espère qu'un État un régime de sanctions, que les principaux responsables de ces mouvements-là réfléchissent à deux fois avant d'appeler ouvertement soit à des affrontements, soit même en prononçant des discours qui pourraient éventuellement attiser les violences dans cette partie du Mali. Il y a des groupes, des entités ou des individus qui ne craignent absolument pas ce type de sanctions dans la mesure où ils ne disposent pas de compte bancaire enregistré au Mali, soit à l'extérieur du Mali, qui ne souhaitent pas non plus voyager par les canaux habituels, c'est-à-dire les avions.
Ces informations sont disponibles sur la page Facebook de Studio Tamani et sur son compte Twitter. Pour réagir, vous pouvez vous y rendre, tout comme vous pouvez nous faire parvenir vos réactions sur le répondeur au 75 84 11 11 ou au 75 84 12 12. Studio Tamani. Un véhicule de ravitaillement de l'armée malienne a été attaqué ce matin à Ménaka par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, le bilan est d'un militaire tué et d'un autre blessé. Le village de Namba, non loin de Djafarabé, a été la cible d'une attaque cette semaine par des présumés djihadistes. Certaines sources locales évoquent plus d'une trentaine de personnes enlevées. Les assaillants exigent l'application de leurs lois en échange de la libération des otages. Sekouba est un ressortissant du village de Namba. Il parle des circonstances de cette attaque au micro de Maman Al-Maimoun.
Des hommes
en armes sont partis dans les villages, ils ont commencé à frapper les femmes en disant qu'il faut qu'elles se voilent. Quand ils ont commencé à frapper les femmes se sont rébellées contre eux. Ils les ont désarmées et ils ont fui, ils sont partis en brousse. Donc face à cette situation, ils sont partis rendre compte de la situation à leur état-major qui sont dans la brousse. Effectivement, le lundi, c'est la foire de Defravé et tous les habitants de Mamba vont à la foire de Defravé le lundi matin. Donc tous les hommes qui ont quitté à soi à dos de charrette ou à moto ou à bicyclette, donc, ils ont trouvé qu'il y avait une embuscade qui leur était tendue. Tous ceux qui arrivent, ils faisaient descendre leur monture parce qu'ils les bannaient les yeux. Ils ont arrêté au moins une trentaine, 38 personnes, dont deux femmes. Ils ont libéré 12 personnes encore. Donc, présentement, ils ont entre leurs mains 19 personnes. Donc ils disent ceci, il faut que le chef du village, l'imam, et notre mari, plus le griot, et notre les rencontre à leur site pour qu'ils négocient. S'ils sont allés les rencontrer, ils disent bon, il faut que tous les villages les suivent, sinon ils vont pas libérer ces gens.
La problématique de l'emploi au Mali suscite des débats au sein de l'opinion publique. Le mouvement national des jeunes chômeurs réclame au président Ibeka les 200 000 emplois qu'il avait promis pendant la campagne présidentielle. Mais des statistiques annoncées par le gouvernement révèlent que l'objectif de 200 000 emplois a été atteint à hauteur de plus de 90%. Notre reporter Assetou Kanté s'est intéressé au sujet. Voici son reportage.
Sur les 200 000 emplois promis par le chef de l'État, les structures de l'emploi ont enregistré la création de plus de 199 000 emplois, soit environ 99,8%. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes confirme ces statistiques. Abdoul Kader Sila, chef unité planification et suivi évaluation à l'APEJ.
Je ne peux que confirmer ce que le ministre a dit, parce que les données sont disponibles au niveau de la Direction nationale de l'emploi. Il n'y a rien à cacher, c'est les emplois qui ont été formellement créés. Plus de cela, c'est qu'on n'a même pas comptabilisé les emplois qui ont été générés par l'auto-emploi, parce que l'APEJ finance des projets et qui génèrent également des emplois. On est même dans la logique de comptabiliser ces emplois.
Le mouvement national des chômeurs conteste ces chiffres. Selon son président, des preuves existent pour le confirmer. Ibrahim Mahaman Meiga, président de l'association des chômeurs.
Aujourd'hui, nous, les 200 000 emplois, dire qu'il y a eu un taux de réalisation de 99,8%, c'est à la télé qu'on l'a appris. Et si on descend sur le terrain, on demande, on questionne les chômeurs, ils vont dire que rien de convaincant ni de substantiel ne fait. Et là, on a des preuves pour ça.
Les responsables chargés de l'emploi reconnaissent que la problématique reste un sujet délicat, mais ils promettent de dépasser les 200 000 emplois d'ici la fin du mandat du président Abdoul Kader Sila de l'APEJ.
La situation de l'emploi au Mali aujourd'hui se caractérise par d'abord la démographie galopante. C'est à 65% qui ont moins de 15 ans. Toutes les structures ont proposé des activités concrètes, objectives qu'elles vont mettre en œuvre pendant cette année-là. On a même commencé à évaluer ce plan d'action de la feuille de route et ça promet, Inch'Allah, nous allons dépasser le cap des 200 000 emplois.
Cet objectif semble irréalisable selon l'association des chômeurs qui dénonce les limites des politiques de l'emploi au Mali. Selon elle, il faut impliquer tous les acteurs du domaine. Ibrahim Mahaman Meiga.
La question d'emploi passe par trois facteurs. Il y a les décideurs politiques, il y a les partenaires financiers, les partenaires techniques et les chômeurs. Il faut les associer. Moi, je leur ai dit, tant que vous continuez seulement à traiter avec l'État et que vous écartez les autres partenaires, ça ne peut pas aller.
Pour certains chercheurs, il existe plusieurs secteurs pourvoyeurs de l'emploi au Mali, tels que les mines ou l'agriculture. Mais ces secteurs sont inexploités. Abdoulaye Niang, économiste, chercheur.
Là où aujourd'hui le Mali crée beaucoup de richesses, c'est dans le domaine des mines. Il faut aller dans une restructuration du capital d'investissement des mines. C'est-à-dire qu'il faut qu'on modifie la manière dont aujourd'hui nous sommes en train de retenir la richesse, la manière dont on est en train de créer la richesse. Si on avait accepté en 2012 de structurer le capital d'investissement de la mine de Gungoto, aujourd'hui le petit village de Gungoto qui a moins de 1000 personnes allait générer 3 à 4 milliards de francs CFA par an pour la population.
Au Mali, selon les données de l'association des chômeurs, il sont encore des millions de jeunes qui sont sans emploi.
Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018, les Aigles du Mali sont quasiment éliminés. Hier, ils ont fait match nul contre le Maroc à Bamako après une défaite 6-0 à Rabat. À 2 journées de la fin des éliminatoires, le Mali se classe dernier du groupe C avec 2 points. La Côte d'Ivoire est première avec 7 points. Selon certains observateurs, le Mali devrait prioriser les éliminatoires de la CAN 2019 en impliquant des joueurs locaux et des dirigeants maliens dans les staffs techniques de l'équipe nationale. Moussa Boly, chroniqueur sportif au juin par Amadou Amamaïga.
Bon, mathématiquement, le Mali n'est pas éliminé, mais il faut dire que les chances de qualification sont très minces après le nul Diab. Vous savez, c'est une responsabilité collégiale, c'est une responsabilité collective parce que l'entraîneur, il est là parce que la fédération l'a fait venir. Ceux qui sont actuellement à la tête de la fédération diront que après la CAN catastrophique, ils ont voulu le limoger et que le ministère n'a pas voulu. Donc tout le monde est coupable. Mais sur le jeu, Jeunesse n'a jamais été à la hauteur. Vous savez, si ça ne tient qu'à moi, il faut oublier la Russie. Le plus important, c'est la CAN. Il faut essayer de rebâtir une équipe. Les expatriés ont toujours dit que les joueurs locaux ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. C'est faux parce que vous voyez le Burkina. Le Burkina paye aujourd'hui parce qu'ils ont un effectif stable depuis au moins 6 ans. Un effectif stable. Alors que nous, à chaque regroupement, l'effectif est remanié presque à 60-70%. Comment vous pouvez monter, présenter face à des adversaires comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, un effectif qui n'est pas soudé, un effectif qui n'est pas cohérent?
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, des maisons écroulées, des bétails emportés et des champs endommagés, c'est le bilan des inondations survenues dimanche dans les villages de Wetebougou dans la région de Ségou. Selon l'autorité régionale, 117 personnes ont été touchées par cette catastrophe naturelle. À Koutiala, une cinquantaine de présidents des comités de gestion scolaire, de lieux et d'autorités scolaires ont échangé sur la rentrée scolaire 2017-2018 ce matin. La rencontre a permis de dégager des solutions par rapport aux problèmes liés à l'enseignement dans la localité. La pléthore des effectifs avec plus de 160 élèves par classe a dominé les échanges. La rencontre a été organisée par le Centre d'animation pédagogique de Koutiala. Le Grand Dialogue, votre émission débat de tous les soirs, c'est dans quelques petites minutes en compagnie d'Aliou Sidibé. Il est déjà là. Bonsoir Aliou.
Bonsoir Fomba.
De quoi sera-t-il question ce soir?
Oui Fomba, à savoir que le lundi dernier, Ibrahim Boubacar Keïta a bouclé quatre années au pouvoir. Alors le lundi dernier, on a tenu un débat en langue française sur le bilan de ces 4 années d'exercice. Donc Studio Tamani a jugé nécessaire de retourner sur ce bilan en langue nationale bamanankan. Et pour cela, nous avons invité Nuhun Togo au nom de l'opposition, Boulam Baro au nom de la majorité et Amadou Tchiblendjara sera là au nom en tant qu'analyste.
Bon débat, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec une mise en nom de Philippe Dambélé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les magazines.